Oui, on peut s'attendre à une défaite des travaillistes, reste à savoir de quelle ampleur. Disons qu'on score autour de 30% pour le Parti travailliste, eh bien, ne serait pas un trop mauvais résultat pour lui. Alors, comme le scrutin concerne essentiellement l'Angleterre, ce qui sera testé au-delà des enjeux locaux qui comptent également, c'est la popularité du gouvernement et de son Premier ministre, M. Brown, dans le sud de l'Angleterre.
Alors, la bataille pour la mairie de Londres, qui s'annonce serrée, est présentée comme décisive. Est-ce que le résultat de ce scrutin peut fournir des indications fiables pour les prochains scrutins nationaux ?
Pour ma part, je ne pense pas que l'élection soit décisive. Je dirais que l'élection de Londres, c'est une élection spéciale, qui est à la fois symbolique, mais atypique. Même si il ne faut pas projeter sur Londres les pouvoirs que l'on attribue, par exemple, à des villes comme Paris ou New York. Le maire de Londres a essentiellement des responsabilités en matière de transport, en matière d'aménagement urbain et en partie en matière de police. Mais il n'a pas le budget ni les pouvoirs qu'a par exemple le maire de Paris.
Alors à Londres, le maire sortant travailliste Ken Livingstone, très actif et expérimenté, est au coude à coude avec son rival conservateur, le journaliste Boris Johnson, que l'on présente pourtant comme un pitre gaffeur. Quels sont les dossiers qui vont peser dans le choix des londoniens ?
On parle très très peu de projets pour Londres dans le cadre de cette campagne. Et c'est essentiellement un combat de personnalité. Certains disent excentrique, d'autres vont même jusqu'à dire mégalomane. L'expression qui revient le plus souvent dans la presse, c'est le terme de cirque pour qualifier cette élection. Si c'est Johnson qui l'emporte, eh bien on dira que c'était le mandat de trop pour Livingstone, qui est là depuis pas mal de temps. Mais je ne pense pas qu'on pourra en déduire pour autant que c'est une défaite du Parti travailliste et de Gordon Brown.
Alors à propos de Gordon Brown justement, quelles sont les causes de la chute spectaculaire de sa cote de popularité dans l'opinion publique et au sein même de son parti ? Est-ce que c'est le ralentissement de l'économie ou sa personnalité un peu indécise ?
Je pense que il ne faut pas surévaluer cette impopularité. Certes, aujourd'hui, on considère que le Premier ministre pâlit de la comparaison avec son prédécesseur, Tony Blair, en termes de communication politique, en termes de charisme. Mais c'est aussi pour ces mêmes raisons qu'il y a un an, il était populaire et qu'il avait été porté à la tête du Parti travailliste et du gouvernement. Et donc, ses qualités de sérieux et de compétences qui lui avaient valu d'accéder au leadership. Pour ma part, je pense que le principal problème de M. Brown et du Parti travailliste, c'est tout simplement l'usure du pouvoir. C'est tout à fait unique pour un Parti travailliste qui a toujours fonctionné sur la base d'un programme original, innovant et d'idées neuves. Or, le problème maintenant, c'est celui de l'absence d'idées neuves, du renouvellement des idées. Alors, le deuxième problème, c'est des incertitudes liées à l'économie, l'affaire Northern Rock, le prix de l'immobilier qui a tendance à chuter, une récente réforme fiscale malheureuse, et surtout donc par rapport à l'image de M. Brown qui a bâti sa réputation sur son image de compétence en matière économique.
Est-ce que l'hypothèse d'élection anticipée et d'un retour des conservateurs au pouvoir est raisonnable selon vous ?
Non, je ne le crois pas du tout. M. Brown a encore 2 ans pour redresser la barre sur le terrain de l'économie. Par ailleurs, donc, en face, il me semble que le Parti conservateur n'a pas encore achevé sa mue en termes de programme. Même si les sondages sont actuellement assez défavorables au Parti travailliste, bon, il n'est pas certain que l'avantage tournera forcément en faveur de M. Cameron.